Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprises de taille intermédiaire, co-animée par Alain Marty et Richard Fremder, en partenariat avec Carmine Capital, le groupe Ener et Arkea, banque, entreprise et institutionnelle.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de TI Radio. Vous êtes très nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous pouvez également réagir sur les réseaux sociaux. À mes côtés pour co-animer cette émission, Anne-Laure Saint-Marc-Gérardin, fondatrice de Carbine Capital, société de conseil en fusion-acquisition indépendante. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Alain.
Et Marc Leclerc, le directeur général adjoint du groupe Ener. Bonjour Marc.
Bonjour Alain.
Aujourd'hui, on a le grand plaisir d'accueillir un garçon formidable, comme tous nos invités d'ailleurs, Jean-Pierre Cointreau, qui est le président du groupe iconique Nectar. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour à tous.
Alors un mot sur l'historique de cette société, c'est une belle ETI d'abord. Elle a été créée quand et par qui ?
Alors iconique Nectar est une société familiale privée non cotée en bourse qui a été fondée en 1984 sur nos racines sont à Cognac d'un domaine viticole, le Cognac Frappin. Et à partir de là, on a construit, surtout par croissance externe, mais aussi quand même par croissance interne, un groupe qui a réparti ses risques entre le cognac, le champagne avec le champagne Gosset et les liqueurs avec différentes liqueurs qui sont implantées dans leur terroir de manière historique, un véritable patrimoine français des liqueurs avec la verveine du Volet, Isara au Pays Basque, l'Agence de Salaire. Et puis, bien sûr, Védrenne en Bourgogne.
Et vous avez commencé à travailler direct après HEC dans le groupe familial ou vous avez bossé ailleurs ?
Non, j'ai commencé par l'audit, c'était paraît-il la voie royale en sortant d'HEC à mon époque. Ce qui est devenu Ernst & Young aujourd'hui.
Ouais. Et donc ça, c'était une première expérience, puis après vous dites j'entre à la maison.
C'était une expérience extraordinaire parce que c'est là où j'ai appris comment un directeur financier était capable d'ouvrir le tiroir de gauche quand on lui demandait de faire des corrections sur le tiroir de droite. Et c'est très formateur.
Aujourd'hui, alors comment ça se passe le marché national, international des vins et spiritueux ? C'est pas terrible, mon Jean-Pierre. Hein ?
C'est très compliqué et c'est pour ça que j'ai pris la présidence de la Maison des Vins et Spiritueux, qui est l'organisme qui coordonne nos différentes fédérations professionnelles, parce que nous avons beaucoup de problèmes à l'export. Ça a été d'abord les Chinois et ensuite Donald Trump. Nous avons des produits qui sont quasiment exclusivement à l'export, comme le cognac, et d'autres produits qui sont beaucoup plus français, comme les liqueurs. Et c'est donc toujours la recherche d'un équilibre entre les différentes parties ou différents types de produits.
Le marché américain, c'est important pour vous, si on oublie les liqueurs sur ce sujet-là, mais plutôt pour le champagne Gosset et puis le cognac Frappin, qui est aussi une marque iconique.
Ma chère Alain, en fait, c'est avec les liqueurs que l'on a le meilleur marché américain.
Ah oui, un liqueur.
Pour iconique Nectar. Oui, parce que les Américains sont ceux qui sont les plus amateurs de cocktails, et donc les liqueurs qui sont un métier dans lequel il y a une créativité permanente, une modification des parfums mis dans les cocktails. Et donc, j'ai toujours dit que les liqueurs, c'était magique.
Et donc, la partie américaine, en termes de chiffre d'affaires, ça représente combien en pourcentage ?
En fait, pour répondre globalement, on est 50% France, 50% export. Et le marché américain est relativement minoritaire, même si on fait beaucoup d'efforts sur ce premier marché mondial. En fait, je dois répondre probablement au niveau du quart.
Le quart, quoi. Et sinon, sur le marché français, parce que la consommation est un peu en berne, on voit que c'est compliqué aussi. Hein.
Bien sûr que c'est compliqué, mais le but, c'est d'équilibrer les risques, d'équilibrer donc les produits que l'on sort et que l'on adapte au goût du consommateur, et en même temps les marchés sur lesquels on travaille. Il faut être sur les 5 continents, et je dois dire qu'aujourd'hui, on continue à développer, enfin, nous continuons à développer le Moyen-Orient, et on développe aussi l'Afrique, parce qu'il faut aller chercher tous les marchés que l'on peut développer.
Alors, est-ce que vous aimez les verveines, les liqueurs, tout ça là, c'est bien, non ?
Ah oui, moi j'adore, hein, mais j'aime beaucoup le champagne, surtout.
C'est une très bonne liqueur, champagne.
Vous avez fait, si mes recherches sont à peu près exactes, vous avez fait une petite dizaine d'acquisitions, je crois, dans le groupe.
Au moins, oui.
C'est des acquisitions que vous avez. Alors, vous avez une stratégie claire, c'est le fait de racheter des entreprises familiales en bonne santé. Mais est-ce que par ailleurs, vous avez d'autres critères d'acquisition ?
Alors, en fait, la réponse en bonne santé, c'est souvent plus facile. Néanmoins, j'en ai repris à la barre du tribunal aussi.
D'accord.
Donc, on apprend aussi fortement dans ces cas-là. toujours des entreprises familiales qui n'avaient pas de succession, effectivement. On sait bien que le problème de la transmission est un problème majeur. Ça a souvent été des négociations exclusives. Par exemple, pour l'agence Sian Salaire, je suis resté pendant 3 ans en négociation exclusive avec la propriétaire.
3 ans ?
C'est une longue négociation, ça.
Mais qu'est-ce que vous l'avez fait pendant 3 ans, cette dame ?
Elle avait 75 ans quand on a commencé à discuter et elle faisait partie de ses patrons éternels. Et c'est seulement à la suite d'un petit ennui cardiaque qu'elle s'est décidée à signer.
Alors ?
Non, et est-ce que l'intégration, justement, malgré cette transmission qui se fait tardivement pour un dirigeant qui n'a pas envie de partir, en fait, comment se passe l'intégration ?
Alors, en fait, dans les différentes acquisitions que nous avons faites, nous avons repris des entreprises, nous avons repris des marques. Donc les marques, c'est plus facile, il n'y a pas d'actifs derrière et il n'y a souvent pas de personnel. En fait, en ce qui concernait ce dossier, ça a été un peu compliqué parce qu'il y avait un établissement à Paris, bon ça s'est bien passé, il y avait un établissement en Corrèze. Et en fait, ensuite on a été amené à fusionner avec une autre entreprise de Corrèze. Et là, je me suis aperçu qu'à 50 km près, les gens n'étaient pas capables de déménager.
Pour 50 km ?
Pour 50 km, ouais. Absolument.
Ça peut faire beaucoup.
Entre Montaignac, Saint-Hippolyte et Brive.
Ah ben, quand on est à Brive, on quitte pas Brive, hein, Marc.
Non, mais eux, ils étaient à Montaignac et Saint-Hippolyte, justement.
C'est différent. Bon, voilà. Calme. Marc ?
Donc, l'intégration a été plutôt facile, en fait.
Sur les différentes opérations que vous avez faites, sauf sur la fusion de deux équipes corréziennes.
Oui. Absolument.
Ouais. Vous êtes administrateur de salons, Vinexpo. Quelle est la contribution de ces salons au rayonnement international de la filière ?
C'est hyper important. Et c'est pour ça que c'est quelquefois dommage que les subventions qui sont données aux entreprises pour exporter n'incluent pas les salons français. Donc, aujourd'hui, on a par exemple avec Wine Paris Vin Expo un superbe salon qui a eu des difficultés dans le passé, mais qui aujourd'hui est le premier salon mondial. C'est le premier salon mondial.
Le concurrent Jean-Pierre, il est en Allemagne, c'est ça ?
Absolument, à Düsseldorf. Voilà, donc ça se passe bien, en pleine évolution. Et le seul regret qu'on peut avoir, c'est que les travaux de la porte de Versailles font qu'il y a un peu moins d'espace pour les exposants.
Écoutez, il y a des nouveaux maires qui vont arriver. Alors,
sans transition, pour finir un petit peu le sujet de tout à l'heure sur la transmission familiale, vous êtes vous-même du coup une entreprise familiale. Est-ce que vous envisagez votre transmission ? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous avez déjà travaillé ?
Bien sûr, c'est déjà fait. Moi, il y a longtemps que j'ai dépassé l'âge de la retraite, même si je suis président tout à fait actif.
Oh, puis vous êtes en pleine forme en plus.
Oui, ça, il faut demander à mes docteurs.
Ouais.
Allô,
docteur.
J'ai déjà un neveu et un fils qui travaillent dans l'entreprise depuis maintenant 7 ans. Et donc, toutes les activités opérationnelles sont pour eux. Et puis, ils ont la gentillesse de me demander quelquefois sur certains éléments.
Mais vous les laissez vraiment bosser ? Parce que parfois, il y a des gens qui prennent un peu de recul, mais sans en prendre vraiment, quoi. Ils sont tout le temps là sous les réunions.
Pas plus tard que cet après-midi, je leur ai laissé mon bureau pour avoir deux visioconférences successives. Et donc, ils les ont tenues et moi, j'étais ailleurs.
Vous étiez où, d'ailleurs ?
On a comme bureau un espace qui est un ancien espace de coworking. Donc, j'étais dans la grande salle
avec les
open jobs. Space.
Ouais. Marc ?
Beaucoup d'activités à l'export. Quelles sont les zones qui tirent le business en ce moment ?
Alors, en ce moment, très clairement, comme nous sommes des produits traditionnels, l'Europe reste le principal marché. Nous continuons à travailler le développement aux US malgré les atermoiements sur les taxes. Et bien sûr, l'Asie est un pôle de développement. La France reste quelque chose de très important pour nous et pour moi, parce que je pense qu'il faut savoir équilibrer entre les différents marchés et donc être fort dans son pays est d'abord très bon pour l'exportation et c'est surtout en période de crise un bon buffer pour reprendre une expression bien française.
Et pour terminer, Jean-Pierre, le vin français, alors vous c'est du vin de champagne parce qu'on oublie parfois que le champagne est un vin. Le vin va pas bien en France, notamment à Bordeaux. C'est dramatique parce qu'on a besoin d'un Bordeaux fort, hein, pour l'ensemble du vignoble. Qu'est-ce qui se passe ? Comment on fait pour en arriver là ?
Je pense que tout simplement, je ne voudrais pas critiquer une région plutôt qu'une autre, mais j'ai un excellent ami qui s'appelle Michel Chapoutier et qui a coutume de dire qu'il faut quand même adapter les produits aux consommateurs. Et je crois que c'est ce que beaucoup de producteurs en amont de la filière viticole ont oublié. Mmh. Il faut d'abord demander aux consommateurs ce qu'ils veulent, faire le produit qui leur correspond, et à ce moment-là, les exportations françaises pourront se développer.
Bon. Et pourquoi est-ce qu'il faut rester optimiste pour terminer, Cocorico? Alors, pourquoi il faut qu'on garde la banane quand même, hein, et puis la patate aussi?
Écoute, j'ai l'habitude de citer le général de Gaulle qui a dit qu'entre possible et impossible, il y a deux lettres et un état d'esprit.
Merci beaucoup Jean-Pierre, merci également vous Anne-Laure et Marc. Fin de ce numéro de TI Radio, retrouvez tous nos podcasts sur le site et suivez-nous également sur LinkedIn. On se retrouve la semaine prochaine, mercredi à 14h précise pour une nouvelle émission.
L'invité de la semaine de ETI Radio, une production B2B Radio en partenariat avec Carmine Capital, le groupe Ener et Arkéa Banque, entreprise et institutionnelle.